Chapitre 20. Continuation de l'aventure de la Sierra Morena. Certes, Seigneur, quoique je ne vous connaisse point, je n'en suis pas moins touché vivement de l'amitié que vous me témoignez. Le triste état où je suis réduit ne me permettra peut-être jamais de vous prouver ma reconnaissance, mais il ne m'empêche point de la sentir. J'exposerai ma vie avec joie, lui répondit Don Quichotte, pour trouver un remède à vos maux. Si rien ne peut les adoucir, je voudrais du moins les plaindre, et encore plus les partager. Daignez donc m'instruire de vos peines. Je vous jure, par l'ordre de chevalerie que j'ai reçu, quoique indigne, que ma sensibilité mérite votre confiance. » Le jeune homme, pendant que notre chevalier parlait, le regardait, l'examinait depuis les pieds jusqu'à la tête. « Pour l'amour de Dieu, répondit-il, donnez-moi quelque chose à manger. » Quand j'aurai pris un peu de nourriture, je ferai ce qu'il vous plaira, ou du moins ce que je pourrai pour vous obéir. » Sancho et le vieux chevrier lui présentèrent ce qu'ils avaient de provisions. Le jeune homme s'en saisit avec avidité, se mit à manger en doublant et en précipitant les morceaux, et jetant autour de lui des regards inquiets et farouches. Quand son repas fut achevé, sans dire un seul mot, il fit signe qu'on le suivit, et marcha près d'un petit pré caché par une grande roche. Là, recommandant toujours le silence par des signes mystérieux, mettant le doigt sur la bouche et regardant de tous côtés, comme s'il eût craint d'être vu, il s'assit sur l'herbe au pied de la roche, indiqua la place que chacun devait prendre, ferma quelque temps les yeux pour recueillir ses idées et commença dans ces termes. « Je consens à vous raconter mes malheurs, pourvu que vous me promettiez de ne pas m'interrompre dans mon récit. Je sens qu'il serait impossible à ma faible tête d'en retrouver, d'en renouer le fil, si vous le rompiez une seule fois. Je m'appelle Cardenio. Je suis né dans une grande ville de l'Andalousie. Ma famille est noble et riche. Ces avantages de la fortune ne m'ont pas rendu moins à plaindre. Dans la même ville vivait une jeune personne nommée Lucinde, à qui le ciel avait prodigué tous ses dons. Je désirais depuis longtemps l'épouser. J'allais un jour trouver le père de Lucinde et je le priais de m'accorder sa fille. Il me reçut avec amitié, me répondit que ce mariage honorerait également les deux époux. Mais il ajouta que j'avais un père et que c'était à lui à faire cette demande, et que Lucinde ne pouvait pas devenir sa belle-fille sans qu'il eût témoigné qu'il le désirait. Je trouvais cette réponse juste. Je le remerciai de ses bontés et je courus chez mon père pour l'engager à faire la démarche qu'il devait assurer mon bonheur. En entrant dans son appartement, je trouvai mon père une lettre à la main. Sans me donner le temps de parler, « Cardenio, me dit-il, cette lettre va t'instruire de ce que je veux faire pour toi le duc Richard. » Ce duc Richard, comme vous savez, est un grand d'Espagne dont les domaines sont en Andalousie. Il écrivait à mon père pour le prier de m'envoyer auprès de lui afin que je devinsse le compagnon, l'ami de son fils aîné, l'assurant qu'il voulait employer son crédit à mon avancement, à ma fortune, et m'assurant d'avance de son amitié d'une manière si flatteuse, si franche, si éloignée du ton des protecteurs ordinaires, que je sentis bien moi-même que je ne pouvais refuser d'aller au moins le remercier. « Cardenio, me dit mon père, vous partirez dans 2 jours. Vous vous rendrez auprès du duc, et j'espère que votre conduite justifiera le choix qu'il a fait. » Je n'osai répliquer. Le lendemain, j'instruisis le père de Lucinde de tout ce qui se passait et je le suppliai de vouloir bien ne pas disposer de sa fille avant mon retour de chez le duc. Il me le promit. Lucinde me fit le serment de n'être jamais qu'à moi. J'arrivai chez le duc Richard. Il me reçut avec une bonté paternelle. Son fils aîné me témoigna bientôt de l'estime et de l'amitié. Mais le cadet, appelé Fernand, jeune homme aimable et bien fait, me chérit encore plus que son frère, me donna sa confiance, se déclara mon meilleur ami. Mon cœur ne tarda pas à répondre au sien. Quand je revins chez mon père, Don Fernand m'accompagna. Frappé de tout ce que je lui dis de la beauté, de la sagesse de Lucinde, il témoigna le plus vif désir de la voir. Peu de jours après, Lucinde, qui aimait beaucoup à lire les romans de chevalerie, me fit demander Amadis de Gaulle. À ces mots, Don Quichotte tressaillit, et ne pouvant contenir son émotion, « Seigneur, interrompit-il, si votre seigneurie avait dit, en commençant son histoire, que Madame Lucinde aimait les livres de chevalerie, cela seul eût assez prouvé qu'elle est belle, sage, aimable, spirituelle, parfaite. Dès ce moment, j'en suis sûr, je le soutiens et je le soutiendrai. J'ose pourtant vous présenter qu'avec Amadis de Gaulle, elle aurait dû vous demander l'admirable Roger de Grèce. Quand vous le pourrez, je vous demande en grâce de lui prêter cet excellent livre. Si par hasard vous ne l'avez pas, faites-moi l'honneur de venir chez moi. Je vous en offrirai 300 autres qui font la consolation de ma vie et la nourriture de mon âme. Il est vrai que j'aurai peut-être un peu de peine à les retrouver, à cause de la malice de certains enchanteurs. Pardon si, malgré ma promesse, j'ai interrompu votre récit, mais je ne suis plus maître de moi dès que j'entends parler de chevalerie. Daignez continuer, s'il vous plaît. J'écoute avec autant d'attention que d'intérêt. » Pendant que Don Quichotte parlait, Cardenio, rêveur et pensif, avait laissé tomber sa tête sur son sein et regardait fixement la terre. Notre chevalier le pria deux fois de poursuivre. Cardenio ne répondait point. Tout à coup, regardant Don Quichotte avec des yeux égarés, « Non, dit-il, personne au monde ne m'ôtera de la tête, et je croirai toujours fermement, malgré tous les faquins qui diraient le contraire, que la reine Madasim n'était pas d'une vertu parfaite. »« Cela est faux !» s'écria Don Quichotte avec un jurement terrible. « La reine Madasim fut une princesse respectable. » Celui qui soutient le contraire est un infâme, un poltron, un menteur, et je le lui prouverai à pied, à cheval, armé, désarmé, comme il lui plaira. » Gardenio, que son accès de folie venait de reprendre, s'entendant traiter de menteur, saisit une grosse pierre et la jeta de toute sa force à la poitrine de Don Quichotte, qui fut renversé sur le dos. Sancho, voulant venger son maître, tombe à coups de poing sur Gardenio, mais celui-ci, se relevant, a bientôt jeté l'écuyer par terre et se met à danser sur son corps. Le chevrier, qui tente de le défendre, va lui tenir compagnie, et Cardenio, lassé de battre, s'en retourne vers ses rochers. Notre héros, désirant malgré tout entendre la fin de l'histoire de Gardenio, prit congé du chevrier, remonta sur Rocinante et s'achemina de son mieux sur les traces de celui qu'il cherchait.